Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
Est-on trop ou pas assez maquillé entre injonction et empowerment? Quel rapport entretiennent le genre, la classe, la race et le make-up? On va en parler cette semaine avec Kaoutar. Salut.
Salut Clémentine.
Alors, que nous dit l'actu féministe en ce moment?
Alors, l'actu féministe en ce moment, elle est assez riche. On peut penser notamment à la chanteuse Iseut qui a remporté le prix de la révélation féminine aux Victoires de la musique.
Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? À part mes potes là-bas, qui l'aurait cru, papa? Voilà, la réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là.
Et elle a notamment répondu à toutes les personnes qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. Et elle a notamment dit « Je me fais tailler par des grossophobes, des racistes 2.0, des arrière-arrière-grands-pères d'extrême droite sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre vos médocs afin de purifier vos idéologies et vos colons. » Les mots sont clairs. Je crois que tout le monde aura compris ce que Iseut a voulu nous dire.
Quel excellent conseil bien-être. Par ailleurs, la journaliste et youtubeuse Florence Porcel, qui vient de publier un roman qui s'appelle Pandorini, a de son côté porté plainte pour viol contre l'ex-présentateur du JT de TF1, donc Patrick Poivre d'Arvor. Il faut savoir que ce sont des faits qui datent d'il y a 16 ans, notamment lorsque cette journaliste était une jeune fille encore vierge et elle se décrivait à l'époque sous emprise de ce journaliste. Donc une enquête du parquet est ouverte et on attend d'en savoir plus.
Quand elle était étudiante, Florence Porcel admirait Patrick Poivre d'Arvor. C'est d'ailleurs pour le lui dire qu'elle lui écrit en 2004. PPDA finit par l'inviter à assister aux 20h puis à le rejoindre dans son bureau.
Et dans la continuité de ce type de problème, on peut penser aussi à la chanteuse FKA Twigs, qui est revenue notamment sur les abus qu'elle a subis lors de sa relation qu'elle a qualifiée de toxique avec le comédien Shia LaBeouf, contre lequel elle a notamment effectivement porté plainte. Ce dernier lui demandait de dormir nu pour être tout le temps à sa disposition. Il dormait lui-même avec un pistolet et il l'a menacé à plusieurs reprises de cracher la voiture qu'il conduisait. Une interview a été conduite notamment sur la chaîne CBS et la jeune femme a dit, a affirmé qu'elle ne répondait plus à la question « Pourquoi n'êtes-vous pas partie ?» et que c'était à l'agresseur de répondre de ses gestes. Donc on voit bien ici à quel point, entre la France et les États-Unis, on retrouve une culture patriarcale et une culture du viol qui fait écho.
Anybody who's been in this position likes this question, and I often wonder, is it even an appropriate question to ask? Mm-hmm. And you know the question is, why didn't you leave?
Yeah. And I think we just have to stop asking that question. I know that you're asking it like out of love, but like I'm just gonna make a stance and say that I'm not gonna answer that question anymore, because the question should really be to the abuser, why are you holding someone hostage with abuse? You know, and people say, oh, it can't have been that bad because else you would have left. And it's like, no, it's because it was that bad, I couldn't leave.
Alors, on va parler cette semaine donc du maquillage et des liens que cette pratique entretient avec les questions de genre, de classe ou de race. Déjà, dans l'actualité, on en a parlé, puisque beaucoup de femmes, de personnes non-binaires et de personnes qui se maquillent ont cessé tout simplement de se maquiller depuis un an à cause de la pandémie de Covid. Ces personnes ont parfois également cessé de mettre un soutien-gorge lorsqu'il et elle en mettaient. D'autres ont pour autant continué comme avant, parfois pour avoir un rituel ou pour faire des visioconférences. Mais en tout cas, on a suivi cette tendance qui s'appelle no make-up et qui s'appelle également skin fasting en anglais, ce qui est une forme de diète de la peau venue du Japon. Mmh. Alors le cabinet Nielsen estime que les ventes de produits de maquillage pour le visage ont diminué au total de 27%, ceux pour les yeux de 33% et les rouges à lèvres, sans surprise, de 47%. Mmh. D'autres personnes ont décidé de se concentrer uniquement sur les yeux qui sont encore visibles avec le masque. Mais quoi qu'il en soit, le monde ne s'est pas effondré après que les femmes ont arrêté de se maquiller. Voilà, Tout va bien, merci. Alors, on va peut-être d'abord faire un petit rappel historique du maquillage.
Ici, dans Quoi de Meuf, on a déjà quelque peu parlé de cette question par touche rapide. On peut se rappeler notamment l'épisode qui avait été réalisé sur le tatouage, qui entretient évidemment une sorte de parenté avec l'artifice du maquillage et qui peut revêtir une forme de signification rituelle sociale assez forte, voire pour certains et certaines, une forme de marqueur de la vie et puis des expériences qui ont été les leurs. De manière très rapide ici et sans être trop exhaustif, on peut faire un petit aperçu historique des pratiques qui sont souvent des pratiques non genrées d'un point de vue historique. On voit notamment que la question du soin de soi et notamment la question de la parure s'accompagne de gestes corporels, le geste de se maquiller, mais d'espace aussi, par exemple les termes, si on pense à cette époque ancienne et effectivement dans l'imaginaire collectif, il faudrait voir dans quelle mesure cela est exactement vrai, mais les Égyptiens et les Égyptiennes apparaissent comme ceux qui utilisaient du kohl sur les yeux à base de suie ou à base de plomb. Bon, en termes de maladie, on peut s'interroger sur les pratiques anciennes, effectivement, si on les rapporte à aujourd'hui.
Le kohl est un cosmétique réputé depuis l'Égypte antique. Les pharaons utilisaient déjà cette poudre pour embellir leur regard. Il faut dire que rien ne vaut le kohl pour se dessiner de parfaits yeux de biche. Pour des raisons pratiques, aujourd'hui en France, les crayons ont remplacé la poudre.
Mais si on continue un peu dans la Rome antique, par exemple, le maquillage servait aussi à distinguer les personnes qui étaient accusées de pratiques païennes, contrairement aux personnes qui étaient inscrites dans le rituel chrétien légitime. Si on creuse un peu la question des ingrédients à partir desquels les maquillages étaient fabriqués, on retrouve évidemment des produits d'origine animale, on retrouve aussi du placenta, on imagine avec le placenta toute l'idéologie, toute la mythologie qui peut s'y référer. On peut aussi y retrouver, chose peut-être un peu plus étonnante pour nous aujourd'hui, de la bouse de crocodile. On retrouve aussi de l'urine pour se blanchir les dents et la dimension acide ici fait pleinement son effet, j'imagine. Mais simplement, disons que les critères et les standards esthétiques qui sont relatifs à une époque précise sont extrêmement changeants. À Rome, par exemple, on peut retrouver des preuves, des éléments attestant selon le fait d'avoir un petit front était perçu comme une marque de beauté absolue.
Et alors le maquillage a aussi fait l'objet d'un jugement social, parfois comme au Moyen-Âge, où il a été condamné par l'Église comme symbole de luxure. Ensuite, à la Renaissance, les dames se mettaient de la belladone sur les paupières pour dilater les pupilles. C'est un produit totalement mortel. Et se badigeonner les cils d'antimoine noir, qui est un cousin de l'arsenic, donc lui aussi très toxique. Il faut également savoir que Louis XIV, qui a attrapé le typhus et qui est devenu chauve suite à cette maladie, en a profité pour relancer la mode des perruques pour tous et toutes, ce qui est assez pratique. Ensuite, la question du maquillage est revenue sur le devant de la scène en suscitant l'opprobre des dirigeants et des dirigeantes, notamment en Angleterre, puisque la reine Victoria a décidé que le maquillage était réservé aux acteurs et aux actrices et il fallait donc le faire discrètement ensuite. Et chez nous, en France, il y a aussi eu un déclin de ces pratiques à partir de la Révolution française, qui est un moment où on a privilégié à la fois l'égalité et une forme de modestie. Et depuis, si on devait dégager plusieurs tendances, on pourrait dire que son usage s'est à la fois démocratisé à travers les classes sociales, puisqu'il n'est plus réservé aux classes supérieures, mais paradoxalement qu'il y a aussi eu un recul du masculin dans ses usages, et on en parlera tout à l'heure. En tout cas, la sociologie s'est saisie assez tardivement de ces questions, de ce qu'on appelle le travail esthétique de soi et les pratiques d'embellissement. C'est un sujet qui est encore jugé pas très légitime dans le monde universitaire. Néanmoins, on peut citer les travaux d'Alain Corbin sur l'histoire de l'hygiène, de David Le Breton sur l'histoire des pratiques corporelles et bien sûr le livre de Mona Chollet, Beauté fatale, sur ce qu'elle décrit très bien comme étant le complexe mode beauté.
C'est un sujet assez compliqué, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le traiter d'une façon trop univoque ou voilà, parce que je crois que c'est très, beaucoup de femmes sont très ambivalentes avant tout sur la beauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est le souci de l'apparence, le souci de se présenter de manière élégante aux autres, de se préoccuper de la façon dont on apparaît aux autres, c'est quelque chose qui a été complètement délégué aux femmes, en fait. C'est-à-dire que les hommes, globalement, s'en soucient beaucoup moins, ils sont beaucoup moins conditionnés pour s'en soucier.
Oui, et ce qui va être intéressant, c'est que ce sont en partie les études féministes qui vont contribuer d'une manière assez forte à révéler la dimension hautement politique de cette question apparemment superficielle et anodine. Une manière assez précise de poser sociologiquement la question du maquillage va consister notamment à l'inscrire dans le cadre de la construction sociale du rapport au corps. Dans cette perspective, le maquillage va alors devenir un type de conduite parmi d'autres, au centre duquel se pose le corps, la corporéité, le rapport à ce corps, mais aussi le corps tel qu'on le représente et tel qu'on le donne à voir en société à l'égard d'autrui. Ces conduites, elles sont loin d'être hasardeuses, bien au contraire, puisqu'elles s'inscrivent dans des formes plurielles de socialisation, des socialisations qui peuvent être parfois extrêmement précoces. Et ces formes-là de socialisation, elles sont portées par différentes institutions qui sont absolument centrales dans la constitution de l'individu comme être social. Et parmi ces institutions, on peut citer bien sûr l'école, la famille, les cercles amicaux, on peut même penser au cercle professionnel et bien évidemment à l'ensemble des représentations médiatiques notamment qui sont faites à ce propos. Un point qui me semble extrêmement important à préciser, c'est d'essayer de bien comprendre que ces différentes pratiques de soins de soi qui empruntent souvent la technique du maquillage ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Des sociologues comme notamment Bernard Lahire, mais aussi Muriel Darmon ou encore Jean-Claude Kaufmann ont pu montrer à travers leurs travaux respectifs le principe profondément différentiel des discours qui portent sur le corps et auxquels les femmes, mais aussi les hommes, sont dès leur plus tendre enfance exposés. Un point qui découle directement de cette idée selon laquelle le rapport au corps et le rapport au maquillage est traversé par des contradictions repose notamment sur le fait que on sait qu'il faut être mince, mais est-ce qu'on fait tous le travail nécessaire pour l'être ? On sait qu'il faut se maquiller, mais en même temps, c'est très bien vu d'apparaître comme naturellement belle, etc., etc. Donc on voit qu'il y a ici des injonctions extrêmement fortes du point de vue des normes que les hommes et que les femmes, de manière distincte, sont appelés à respecter. Et c'est ce type d'injonctions contradictoires qui placent les individus eux-mêmes dans un rapport contrarié, parfois on peut même parler de malaise, de mal-être, à l'égard de ce qu'ils font ou de ce qu'ils pensent devoir faire de leur propre corps, voire à leur propre corps. Et il me semble que c'est vraiment en essayant de porter attention à ces dimensions, qu'est-ce que l'on dit du corps et qu'est-ce que l'on fait à son corps, qu'on peut penser l'acte de se maquiller comme le résultat d'un apprentissage assez long et assez ancien, et collectif et individuel à la fois, du souci de soi. Plus précisément, on peut approfondir encore un peu plus la question avec la sociologue Martine Cour, qui a mené une enquête sur cette question des pratiques de soins du corps. Et Martine Cour écrit notamment « Au cours d'une enquête où je cherchais notamment à saisir comment les enfants apprennent ou non à se soucier de leur beauté et à en prendre soin, j'ai en effet pu observer que dans ce domaine de pratique, un certain nombre de filles intériorisent des manières d'agir qui ne sont pas conformes à leur manière de penser, parce qu'elles sont ou ont été exposées à des injonctions contradictoires à propos de leur beauté et des soins qu'il convient de consentir. » Ça me semble assez juste d'énoncer les choses de cette manière-là, puisqu'on va le voir, l'acte de se maquiller, l'acte de travailler son corps, de travailler sur son corps, est traversé par des tensions, par des injonctions, et donc aussi forcément par des rapports de pouvoir qui renvoient directement à la question du genre, à la question des rapports de classe et des rapports sociaux de race.
Oui, effectivement, et pour donner une idée de l'économie et du budget que représentent les cosmétiques. Il faut savoir quand même que les femmes sont principalement les vaches à lait de cette industrie qui est dominée dans le monde par la France, ce n'est pas un hasard. Et c'est une industrie chez nous qui a engrangé 45 milliards d'euros en 2017. Alors en 2013, selon l'Express, pour 84% des femmes interrogées par le magazine, le budget maquillage ne dépassait pas les 30 euros par mois, ce qui est assez raisonnable, en tout cas selon le budget des personnes. Néanmoins, aux États-Unis, le New York Times a estimé que ce budget était plutôt de l'ordre de $300 par mois pour la génération des millennials. Donc, on voit qu'il y a de très grandes différences d'investissement économique. Et pour conclure, le magazine The Atlantic avait vu juste avec cette boutade qui disait que la meilleure astuce beauté, c'est d'être riche.
C'est une bonne formule, effectivement. On parlait de travail et le travail demande aussi à mobiliser des outils et des outils perçus comme de qualité pour pouvoir effectuer ce travail dans les bonnes conditions et avec en plus le bon savoir-faire. La question du maquillage entretient aussi des liens particuliers avec la question féministe. Ceux et celles qui nous écoutent se sont d'ailleurs peut-être déjà posé la question, à savoir est-ce que l'on peut se dire et être féministe et porter du rouge à lèvres, un soutien-gorge, voire des talons, voire des vêtements moulants. C'est un paradoxe car les filles ont demandé à être plus libres et ont enfin été autorisées à porter des jupes et du maquillage au lycée. On a aussi beaucoup dit depuis les années 60, et c'est une petite musique qui continue bien sûr à se faire entendre, et puis on peut la considérer avec sérieux aussi, que ces éléments-là, ce fameux maquillage, ce fameux rouge à lèvres, ce fameux soutien-gorge, talons, etc., faisaient partie de l'arsenal patriarcal de contrôle du corps féminin par l'ordre social masculin. On peut aussi, pour continuer à jouer dans cette perspective d'argument contre argument, se souvenir que le rouge à lèvres a été un symbole d'unité extrêmement fort pour les suffragettes en Angleterre.
In the 1900s, the suffragette movement reclaimed red lips in rebellion. Wearing it on marches.
Il y a eu notamment aussi le courant du lipstick féminisme dans les pays anglo-saxons au tournant des années 80-90 et qui ont revendiqué la liberté de porter absolument tout ce qu'elles voulaient. En réalité, déroger à ces codes a à chaque fois un coût social plus ou moins élevé et que chaque individu peut plus ou moins supporter. À l'occasion du 8 mars, par exemple, en 2016, on peut se souvenir qu'il y avait eu cette campagne que l'on peut qualifier avec du recul de manquer, à savoir mettez du rouge à lèvres sur la bouche des hommes pour qu'ils puissent eux aussi manifester de leur solidarité à l'égard des femmes qui souffrent de violences sexistes et sexuelles.
Cette année, c'est donc vous, l'égérie, tiens, j'en pointe un nom féminin, de la campagne Mettez du rouge qui a débuté hier, une campagne qui invite donc les hommes à se mettre dans la peau des femmes en se mettant du rouge à lèvres. C'est surtout une campagne de sensibilisation à la lutte contre la violence faite aux femmes. Pourquoi vous êtes-vous engagée dans cette campagne-là? Pourquoi de cette façon-là?
Ben, parce que je m'étais déjà engagée dans cette campagne il y a plusieurs années.
Manque de chance ou violence absolue du patriarcat, l'un des hommes en question, dont la bouche était peinturlurée de rouge, n'était autre que Denis Baupin. Et si on se souvient bien, Sandrine Rousseau avait notamment expliqué que c'était le fait d'avoir vu Denis Baupin dans cette mise en scène de solidarité avec les femmes agressées, qu'elle avait elle-même revécu son agression et qu'elle avait décidé de franchir le pas et de dénoncer l'acte dont elle avait été victime.
Oui, ça allait un peu trop loin. Donc on rappelle quand même que le fait de porter du rouge à lèvres pour un homme ne disculpe pas ou ne dispense pas d'être un agresseur par ailleurs. Alors pour parler encore de ces controverses au sein des mouvements féministes, certaines ont simplement décidé de ne plus se maquiller et de se retirer de ces injonctions patriarcales et du concours à la bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes. Récemment, on a vu l'exemple aux États-Unis de la chanteuse Alicia Keys qui s'est exprimée sur le sujet en disant que pour elle, le maquillage était un masque. En réalité, elle a continué à en porter de manière discrète. C'est ce qu'on appelle du maquillage nude. Voilà, pour d'autres personnes, cesser de porter du maquillage peut aussi être une manière d'obéir à un autre diktat masculin, puisque ce sont toujours des injonctions contradictoires, ce diktat étant « je préfère les filles au naturel ». Bon, on pourra en discuter peut-être dans la suite de l'épisode. Et d'autres féministes, à l'inverse, trouvent que le maquillage fait partie d'un arsenal de guerrières. C'est ce que racontent certaines femmes au magazine en ligne Chic. Il y a une professeure de marketing à l'école de business de Toulouse, c'est Sylvie Borot, qui a été interrogée à ce sujet par Terra Femina. Et selon elle, le maquillage concentre en un simple trait les trois piliers de l'attractivité physique que sont la symétrie, la jeunesse et le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences d'aspect entre l'homme et la femme. Et on voit bien ici comment le maquillage et les cosmétiques peuvent être utilisés comme un marqueur de différenciation sexuelle, et donc au même titre que le petit nœud de la culotte ou les jouets genrés.
Oui, effectivement, c'est très juste, et on voit bien à quel point on est vraiment au centre de rapports sociaux de genre extrêmement puissants. Mais dans le cas d'Alicia Keys, si on remonte un peu à sa propre expérience, on est aussi sur le sentiment que finalement les rapports de genre tournent à la faveur des femmes, puisque les femmes décident de devenir les souveraines de leur propre corps et de ne plus répondre aux diktats qui seraient imposés par l'ordre social masculin. Et en même temps, on ne peut pas oublier qu'Alicia Keys est une femme extrêmement riche, avec un pouvoir social des plus importants, et que là, tout d'un coup, évidemment, toute la machine capitaliste, en vérité, semble elle-même se travestir sous l'apparence d'une sorte de retrait corporel, alors qu'en vérité, on pourrait dire que c'est simplement une sorte de déplacement ou de nouvelle manière de se présenter physiquement au monde, mais qui n'annule nullement les rapports sociaux de genre, et notamment ici les rapports sociaux de classe, puisque les produits qui sont utilisés sont des produits extrêmement chers et produits de manière extrêmement limitée. Donc on voit comment une sorte de caste féminine peut se reconstituer très rapidement à partir de cette idée selon laquelle il faut se maquiller différemment, il faut se maquiller de manière transparente. Mmh. La question, et encore une fois, je pense que les personnes qui nous écoutent ont peut-être été déjà confrontées à ce type de discussion, voire de débat, voire de médisance à propos de telle personne ou de telle autre personne qui serait trop maquillée ou au contraire pas assez maquillée. Et il me semble que là, on atteint quelque chose qui est extrêmement important. La chercheuse Marion Brezaz, notamment, parle du corps esthétisé comme un capital social à double tranchant pour les femmes. Par exemple, dans le contexte professionnel, Marion Brezaz écrit « Ces pratiques sont encadrées par deux prescriptions rigides. D'une part, la féminité et la beauté sont considérées comme une force, permettant de se distinguer des autres employés dans un univers concurrentiel. » Elle ajoute « Il faut donc savoir en jouer. » Mais d'autre part, la féminité et la beauté ne doivent pas être travaillées dans l'excès, car le risque de discrédit est fort. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est là où on retrouve notamment la distinction entre ce qui relèverait du vulgaire et ce qui relèverait par exemple du glamour. On peut vraiment se demander qu'est-ce que la différence entre être vulgaire et être glamour. En vérité, il me semble que la distinction forte, c'est la capacité de maîtriser la dimension sexuelle qui est mise en avant par les différentes formes d'apparition physique qui vont être déployées. Donc en vérité, entre le sexuel, le glamour, le vulgaire, l'élégant, etc., on retrouve simplement des formes de continuum de violence, mais qui sont plus ou moins atténuées, plus ou moins ressenties par les femmes du fait des normes qui leur sont imposés.
Oui, c'est une forme d'équilibre qui est quasiment impossible à atteindre.
Exactement.
De quelque côté du spectre que l'on se situe. En tout cas, le maquillage est une forme de marqueur social, puisque les femmes font l'objet souvent d'une double sentence, c'est-à-dire qu'elles subissent à la fois le sexisme et donc l'injonction à la respectabilité. Tu le disais, elles font l'objet de quolibets. On dit qu'elles sont vulgaires, ou aussi l'expression « maquillée comme une voiture volée », que l'on associe de manière très péjorative à la prostitution. D'ailleurs, c'était déjà le cas dans la Rome antique, où le maquillage outrancier était caractéristique de la prostitution. C'est quelque chose que l'on entend aussi à propos des descriptions que l'on peut faire de certaines jeunes filles issues de l'immigration, mais aussi de la population féminine du sud de la France, qui est appelée cagole, hein, donc je mets beaucoup de guillemets.
Qu'est-ce que c'est pour vous une cagole ?
Une cagole, c'est une gonzesse un peu légère.
Que légère ?
Enfin légère, quoi, elle va avec eux, elle va avec l'autre.
Ah, c'est une fille facile, une cagole,
voilà,
pour vous.
Voilà.
Ah, c'est ça pour vous, la cagole ?
Ouais, pourquoi ?
Ben, comme ça, pour savoir. Si on te dit, ouais, tu es une cagole, qu'est-ce que c'est ?
Une cagole, ben, ça veut dire que tu es bonne à rien.
Moi, je vais te dire la modeuse, mais ma collègue, qui n'est pas de la même génération que moi, ben, elle va te dire c'est une bonne à rien. Et après, ben, tu as la cagole de 30 ans, où je vais un peu me définir moi, c'est-à-dire qui aime la mode, qui aime tout ce qui est couture.
Et donc, c'est une forme de slut-shaming qui vient s'ajouter à un mépris de classe, puisque ces jeunes filles, en raison des cosmétiques qu'elles utilisent notamment, sont jugées trop apprêtées, voire aguicheuses, même s'il y a une forme de retournement de stigmates et que l'on s'approprie, en tout cas aujourd'hui, chez le grand public, certaines de ces sous-cultures, comme les ongles longs, par exemple, qui ont longtemps été un marqueur de ces populations.
C'est exactement ça. Et si on essayait de saisir ces questions par un autre bout, ça nous amène aussi à nous poser la question. Et puis, si à quoi de meuf, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, à savoir la question de la bonne féminité. Qu'est-ce que c'est que la bonne féminité ? En vérité, tous les éléments nous ramènent à chaque fois au même point, à savoir que ce qui relèverait plutôt de la bonne féminité relèverait plutôt d'une féminité blanche et plutôt d'une féminité bourgeoise, s'il fallait présenter les choses à l'aide des entrées classiques d'analyse. Dans cette perspective des rapports de classe et des rapports de genre en milieu populaire, on ne peut pas parler de l'ouvrage assez important de la sociologue britannique Beverly Sykes, qui a écrit notamment un texte intitulé « Des femmes respectables, classe et genre en milieu populaire ». Vous le trouverez sans aucune difficulté, il a été traduit en français il y a quelques années de cela. Et cette enquête, qui date évidemment des années 80, donc on peut la juger un peu lointaine de nous, on peut se dire que les choses, entre-temps, se sont encore reconfigurées. Néanmoins, à propos de ce que Clémentine nommait précédemment la respectabilité, cette chercheuse britannique écrit « La féminité, autre élément nécessaire des manifestations de la respectabilité, est surtout une ressource culturelle indissociable du déclassement. Jugées à l'aune des apparences et de la désirabilité et du glamour, ces jeunes femmes populaires doivent être tout sauf vulgaires. Manifester leur féminité les oblige à adopter les codes de la bourgeoisie, comme celui de ne pas s'apprêter en journée au risque d'être moquée, ce qu'elles n'hésitent pas à faire à l'encontre d'une étudiante. T'as vu tout ce maquillage ? Elle en met des tartines et ses talons, elle se croit en bottes de nuit ou quoi ? C'est absolument ridicule. Elle se dandine comme une putain de poupée Barbie. Elle fait vraiment cruche. À l'inverse, donc les enquêtées, à partir desquelles la sociologue britannique a travaillé, revendiquent le glamour puisqu'il permet de faire tenir ensemble le sexuel et la respectabilité. Et on voit ici à quel point, dans ce travail qui va être développé par Beverly Sykes, la question des rapports entre femmes, ce qui rappelle à quel point le groupe femme est un groupe lui-même traversé par des distinctions et par des formes de hiérarchie très fortes, va avoir un effet sur le corps, sur la présentation du corps et surtout sur ce que les femmes peuvent faire et peuvent espérer obtenir en se mettant en scène dans un corps en particulier. Et on retrouve ici par la suite les inégalités sociales qui structurent les champs plus globaux. Si évidemment on pense ici avec le travail de Beverly Sykes à la question des milieux populaires et la manière dont les jeunes femmes issues de ces milieux se confrontent continuellement à des normes bourgeoises qu'elles essaient plus ou moins de maîtriser avec plus ou moins de succès et de transparence, il y a bien évidemment un autre rapport social dans une perspective intersectionnelle qui ajoute sa propre difficulté, qui ajoute sa propre spécificité, c'est le rapport social de race. Et dans une perspective à la fois contemporaine, mais aussi dans une perspective plus historique, on peut considérer que le rapport au corps est aussi traversé, est aussi producteur de hiérarchie raciale.
Oui, effectivement, tu l'as dit, le maquillage a joué un rôle qui n'est pas que futile dans la hiérarchisation des individus. Par exemple, le blanchiment de la peau avec de la poudre a longtemps été un signe de distinction sociale, et à l'inverse, avoir le teint rougeau ou bronzé était synonyme de travail et souvent de travail à l'extérieur, donc mal considéré. Cette tendance s'est un peu inversée à partir des années 30. Il fallait avoir le teint hâlé, mais pas trop. Encore une fois, tout est une question d'équilibre.
On raconte que l'instigatrice du bronzage était Coco Chanel. Elle aurait été la première à parader sur des yachts de la Côte d'Azur tout hâlée. Pour d'autres, le déclic se fait en 1936 avec les congés payés. Les deux sont faux. C'est le magazine Vogue qui est le premier. Dès 1920, il vante les mérites du thym hâlé, aussi beau que bon pour la santé. À cette même époque, la France la plus aisée découvre les loisirs. Beaucoup se mettent au sport, en extérieur, et deviennent coutumiers du thym hâlé.
Ça a plusieurs conséquences très concrètes, notamment puisque dans l'industrie des cosmétiques, le maquillage n'était pas fait pendant très longtemps pour les carnations foncées. Et c'est un problème auquel Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna, a remédié. D'ailleurs, en réaction à cela, on peut aujourd'hui valoriser des entreprises qui sont tenues par des personnes noires, comme en anglais 54 Thrones. On peut parler aussi de Black Girl Sunscreen, donc qui est une marque de crème solaire. Il y a aussi la marque Stroller Gang, qui s'adresse aux mères de famille qui n'ont pas le temps de s'occuper de maquillage.
Effectivement, on voit à quel point, d'un point de vue commercial, les choses se sont organisées de manière très très forte pour pouvoir répondre aux besoins des groupes féminins subalternes qui ne trouvaient pas forcément de réponse sur le marché aux demandes qui étaient les leurs. Toujours dans cette perspective, on a pu voir se développer, notamment sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, c'est des choses auxquelles vous avez dû être sensible. On a vu apparaître notamment ce qu'on a appelé le blackfishing, le fait de se faire passer pour une jeune femme noire alors que la personne a une peau de carnation blanche.
There's an alarming new trend making national headlines that needs to be addressed. Blackfishing. So, blackfishing is when a non-black person pretends to be black on their social media by culturally appropriating black features in an attempt to gain followers and attention. I didn't even know there was a word.
Ce qui est intéressant dans ce blackfishing, c'est qu'en fait, il y a une forme d'appropriation et de reconstitution, de quasi-recréation par la qualité du cheveu, par la carnation de la peau, parfois même avec des effets de trompe-l'œil, par des effets au niveau des lèvres, au niveau du nez, au niveau aussi des pommettes, qui donnent le sentiment, une fois la photo prise, que la jeune femme est une jeune femme qui appartient à la communauté noire ou à la communauté latina ou à la communauté asiatique, alors que ce n'est pas le cas. Donc se friser les cheveux au fer, se donner un air latin ou un air africain-américain dans des logiques qu'on peut clairement qualifier de logiques d'auto-exotisation, d'auto-racisation, relève véritablement de ce qu'on peut appeler aussi une forme de fétichisme des femmes racisées par le groupe des femmes blanches. Ce qui revient finalement à faire du fait d'être une femme noire ou une femme maghrébine ou une femme asiatique, une simple expérience de vie, voire un mode de vie, ce qui participe évidemment d'un point de vue politique à invisibiliser leur lutte, leur oppression et à faire comme si être une femme racisée d'un simple déguisement, d'un simple artifice lié à la question du maquillage et de sa maîtrise.
Oui, c'est notamment le cas de Emma Hallberg, qui est une influenceuse suédoise, qui a été épinglée un peu partout lorsqu'elle est revenue de vacances, soi-disant bronzée et avec une coupe de cheveux différente. Et bien entendu, il y a aussi le cas de Kim Kardashian, qui, elle, a été critiquée pour son teint bronzé et ses mains blanches. Donc, voilà.
Et évidemment, on rappelle que ces pratiques dites de black fishing relève typiquement de cas de blackface ou en français de cas de barbouillage. On peut vraiment se demander qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attraction des femmes blanches. Il me semble qu'il y a une piste qui peut être avancée, c'est de bien se rappeler, de bien avoir à l'esprit que les femmes racisées, dans l'ordre des rapports de genre, sont aussi des femmes qui vont être exposées à des formes de sexualisation extrêmement poussées et des formes de sexualisation qui même parfois, historiquement, ont mené à des processus de déshumanisation, voire d'animalisation. Et dans le cas de Kim Kardashian en particulier, mais on pourrait citer d'autres exemples, on pourrait se dire qu'il y a chez elles, à mon sens, une quête perpétuelle d'augmentation de leur pouvoir sexuel. Comment faire pour être une femme toujours plus sexualisée? Eh bien, peut-être en allant piocher dans les expériences des femmes qui sont, dans l'ordre social, le plus soumises à ce type de sexualisation, à savoir les femmes racisées. Et c'est extrêmement grave, puisqu'on voit ici à quel point les violences sexistes, les violences sexuelles que subissent des femmes qui sont par ailleurs exposées au racisme, entre les mains de Kim Kardashian, ça devient quelque chose de positif, ça devient quelque chose de rentable qu'on peut exploiter de manière éhontée et sans aucune forme de conscience politique de ce qui est en train d'être créé. Donc ça rajoute, ça rappelle à quel point les femmes racisées sont exposées à des formes de sexualisation très violentes qui par la suite vont être appropriées par des femmes ne les subissant pas.
Oui, et à tout cela s'ajoutent d'autres logiques intersectionnelles comme la question de l'agisme et aussi celle du validisme parce que, voilà, que l'industrie de la beauté et du maquillage prenne en compte l'agisme, ce n'est pas simplement a priori pour pouvoir proposer de nouvelles crèmes anti-rides à des femmes de plus de 50 ans. On rappelle à toute fin utile que la comédienne Isabella Rossellini a été virée manu militari de la marque Lancôme à l'âge canonique de 42 ans car elle était à l'époque jugée trop vieille pour être le visage de la marque.
When I asked the executive why, they said women dream to be young and so you cannot represent the women's dream. An advertisement doesn't represent reality. An advertisement represents the dream.
Heureusement, ces temps-ci, l'apparition de cheveux gris de la chanteuse Pomme à l'autrice Mona Chollet, en passant par la journaliste Sophie Fontanelle.
Une fois, bon, ça fait kéké, mais j'étais à Saint-Tropez, chez Séniquier, bon, vraiment. Et j'ai vu passer une femme avec des cheveux blancs, pile au moment où moi, il fallait que j'aille recommencer à me l'éteindre. Parce que tous les 15 jours, il fallait faire un raccord. Donc, j'ai vu passer cette femme, et c'était pas la première femme que je voyais magnifique avec des cheveux blancs. J'en avais vu dans mon histoire, déjà dans mon enfance, j'en avais vu. De temps en temps, on en voit passer une et on se dit, waouh, elle est vraiment bien.
Et tout de même d'utilité publique pour donner d'autres représentations. Et pour les personnes en situation de handicap, on peut citer parmi d'autres l'initiative de Véronique Barraud qui s'appelle « J'avais pas vu », qui consiste à adapter le maquillage à des personnes qui sont déficientes visuelles. Car comment se maquiller quand on ne se voit pas? C'est une vraie question qui se pose. Il y a aussi la youtubeuse Elsa Makeup qui est une personne à mobilité réduite, donc PMR en fauteuil. On en a déjà parlé dans notre épisode long précédent et qui donne tout un tas de conseils sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à vous y référer.
Si évidemment, quand on parle de maquillage, on lie cette question immédiatement à la question de la féminité, on peut aussi s'intéresser à ce qui relèverait des rapports entre maquillage et cette fois-ci masculinité. Le maquillage, d'un point de vue historique, si on remonte dans le temps, a toujours été plutôt gender neutre, c'est plutôt la tendance qui se dégage. Les Égyptiens, si on reparle d'eux, portaient du noir aux yeux, portaient aussi du rouge sur leurs lèvres. Plus tard, les hommes à d'autres époques et plus proches de nous en France portaient aussi des perruques, n'hésitaient pas à mettre de la poudre sur leur visage, des mouches notamment au départ pour dissimuler les cicatrices, notamment de la variole. On peut se demander ce qui a fait que progressivement le maquillage est devenu une sorte de caractéristique et d'injonction formulée à destination du groupe des femmes. On peut notamment penser en guise de piste à la Révolution française qui a grandement égalisé les chances et valorisé les principes de retenue, les principes de discrétion, de maintien du corps et a réévalué, a reconfiguré les normes de genre. L'hyper-investissement, on peut le qualifier ainsi, de la parure, de l'apparence, des formes d'apparition, a donc été renvoyé au féminin à partir des principes édictés par le désir masculin et par le regard masculin, par le plaisir que le regard masculin a observer certaines choses plutôt que d'autres. Aujourd'hui, on pourrait dire que les hommes qui osent se mettre de l'anti-cerne sont encore clairement victimes de propos homophobes, clairement dévalorisés dans leur masculinité, voire accusés d'être des hommes efféminés. D'un point de vue du marché, les différents leaders cosmétiques n'ont pas hésité à conquérir ce marché naissant. Vous pouvez penser par exemple à tous les produits qui ont pour effet d'améliorer, je crois, peut-être, je ne sais pas, la qualité de la barbe, la qualité de la peau après le rasage, toutes ces différentes choses. Et d'ailleurs, on raconte, en ces temps de crise, c'est assez incroyable, mais on peut le dire, Macron aurait dépensé 26 000 euros en produits cosmétiques, non pas sur l'entièreté de son mandat, qui approche d'ailleurs bientôt de son terme, mais seulement sur une période de quelques mois, de 3 mois en particulier. C'est le fameux magazine Elle qui le relevait en 2018. On peut donc dire à Manu, Manu, rends-nous l'argent s'il te plaît, en plus de tout le reste. Donc c'est déjà quelque chose, si on s'intéresse à d'autres pays, on peut notamment penser à la société coréenne, la Corée du Sud, où les pratiques masculines de maquillage sont beaucoup plus répandues et beaucoup plus acceptées qu'elles ne le sont ailleurs.
Oui, c'est intéressant de noter que pour les hommes, on vient aux cosmétiques par l'intermédiaire du poil. C'est assez intéressant. Mmh. Par contre, évidemment, chez nous, il faut rappeler que pour l'instant, il y a une forme de résistance virile à ces pratiques. D'ailleurs, en 2019, on se souvient de l'histoire d'Alexis, qui était un lycéen à Albi et qui avait été renvoyé chez lui par le proviseur parce qu'il s'était maquillé. Crime de lèse-majesté.
La mère s'est plainte que c'était très choquant, que sa fille était choquée, que c'était scandalisant de pouvoir voir ça au lycée et que pour elle, c'était pas acceptable.
En tout cas, chez un certain nombre d'hommes, ces pratiques peuvent provenir d'une forme de normalisation de pratiques queer ou de masculinité subalterne, car de plus en plus de garçons le pratiquent. C'est le cas notamment de Fabian, qui est un influenceur non-binaire et qui réalise des maquillages absolument incroyables. Mmh. D'ailleurs, on l'a vu dans un documentaire de M6 sur la non-binarité.
Un garçon, c'est viril. Un garçon, ça fait du foot. On m'a tellement dit que le maquillage, c'était pas fait pour les garçons. Je suis un garçon, je me maquille, j'ai jamais compris le problème, en fait.
On peut aussi citer Benoît Chevalier, qui est l'un des plus gros comptes sur TikTok. Et bien entendu, James Charles, qui est devenu très jeune le premier ambassadeur masculin pour la marque CoverGirl. Ça, c'était en 2016. Et donc, dans la communauté LGBT, pour un certain nombre de personnes queer, le maquillage peut prendre parfois la place d'un rite de passage, d'un mode d'affirmation de soi en public ou d'expression de soi, avec des épisodes que l'on pourrait qualifier de la première fois que j'ai piqué du maquillage à ma maman, etc. Pour un certain nombre de jeunes garçons. Le maquillage peut aussi être une étape dans la transition pour les personnes trans, puisqu'il faut parfois camoufler des poils de barbe ou accentuer les pommettes. Et donc, cela demande tout un apprentissage et certaines compétences techniques. Et je vous renvoie à une interview qui est parue dans le magazine Dazed en ligne, d'un homme queer qui explique que pour chaque enfant qui est assigné garçon à la naissance et qui a très envie de faire l'expérience du maquillage, il y a aussi une personne assignée femme à la naissance qui a tout autant envie de se défaire du maquillage. Donc c'est comme pour tout, le maquillage est une question de consentement. Il peut être sexy, il peut être puissant si on en a envie, mais il faut donner son consentement pour le porter. Et je trouve ça intéressant de faire intervenir la question du consentement en dehors de la sexualité, mais pour les pratiques cosmétiques.
Et dans le cadre des luttes LGBT+, on peut aussi souligner l'existence de ce qu'on pourrait appeler finalement une sorte d'histoire des paillettes. C'est des paillettes qui ont été inventées par un machiniste américain au début des années 1930 à partir de minuscules bouts de plastique colorés et scintillants. Des performeurs et des performeuses drag ont notamment décidé de l'inclure dans leur routine et on a pu voir émerger la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui le glitter bombing, c'est-à-dire balancer des paillettes sur des personnalités politiques homophobes qui reviendraient finalement à faire peser sur elles une forme de honte par le biais des paillettes.
Oui, alors néanmoins, il faut faire attention à ce qu'on appelle le queer washing de ces marques de beauté. On peut prendre l'exemple de Jonathan Van Ness de l'émission Queer Eye, qui est une personne gay, non-binaire et séropositive, qui est partenaire aujourd'hui d'une marque de vernis à ongles. On rappelle que ce n'est pas parce que les produits affichent une couleur arc-en-ciel, néon ou morve de licorne que ce sont des produits éthiques ou que l'entreprise qui les produit ont une politique inclusive. Donc voilà, gardez l'œil ouvert. En tout cas, on ne peut pas parler de maquillage et de cosmétiques sans évoquer YouTube, puisque c'est tout un écosystème d'interdépendance qui a lieu entre le sponsoring des influenceurs et des influenceuses, les marques destinées à la génération Z qui trouvent des ambassadeurs et des ambassadrices, et en face, le public qui choisit d'adopter ou pas ces produits. Et donc, on peut dire que ces dernières années, le tuto, donc le tutoriel beauté sur YouTube, est devenu un genre de narration en soi, un mode de présentation de soi, et entretient une nouvelle culture de la célébrité avec de nouveaux référents et de nouvelles référentes sur ces questions-là. D'ailleurs, ces tutoriels beauté sur YouTube se sont aussi adaptés cette année très rapidement au contexte du Covid, puisque certains expliquent comment bien se maquiller avec un masque, mais aussi comment s'apprêter pour bien passer sur Zoom.
Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo. J'ai une réunion Zoom, une conf call téléphonique via vidéo, via la plateforme Zoom, et je pense que parmi les vidéos qui m'ont été le plus demandées, mis à part comment se maquiller avec un masque, la vidéo qui m'a été le plus demandée, c'était comment se maquiller pour les vidéos, les conf calls.
La cible privilégiée de ces tutos beauté, effectivement, comme tu le dis Clémentine, la question de la narration ici, elle est assez impressionnante. Ce sont plutôt des fillettes, il y a entre 10 et 12 ans, on voit que c'est quand même très très jeunes, qui font un apprentissage de la féminité, parfois même de l'érotisme par imitation, par capillarité, ce qui ne veut pas forcément dire que toutes les filles adopteront ces gestes-là exactement tels que ça leur est montré, mais néanmoins, il y a quelque chose d'un rapport à un modèle qui peut aussi, bien sûr, être subverti, mais qui peut aussi dessiner les grandes pistes, les grandes habitudes qui perdureront dans le temps. Si on suit la sociologue Catherine Monod, qui s'est exprimée notamment dans Slate et qui est l'autrice d'un ouvrage qui s'intitule « Petite fille d'aujourd'hui, l'apprentissage de la féminité », Catherine Monod écrit notamment « Il y a eu un vrai déplacement en 10 ans des chanteuses pop vers les influenceuses. » Elle précise encore « Dès 8 ans, elles ont parfaitement conscience qu'il ne faut surtout pas passer pour une fille dévergondée. Même dans leur démarche d'émancipation, elles intègrent des codes sociaux qui leur indiquent ce qu'il est bon ou non de faire en tant que femme. » Et on revient au final à ce qu'on se disait au début de cet épisode, à savoir la dichotomie extrêmement forte entre ce qui convient d'être fait et ce qui convient de n'être surtout pas fait, et avec des formes subversives qui vont venir faire basculer ces frontières qui sont a priori assez hermétiques.
Oui, c'est vraiment une question de négociation au quotidien. Et alors, pour donner quelques noms parmi les plus connus, on connaît déjà Enjoy Phoenix, Lena Situation. Ce qui est plus intéressant, je pense, à noter, ce sont aussi les tutos d'activistes, par exemple comme Purple Haze, qui utilisent le maquillage sur TikTok pour faire passer des messages politiques et avoir un public captif.
Well, there's no easy way to lighten the mood of this video or to make this to make y'all feel comfortable. It is what it is. We talk about what we talk about.
Donc peindre sur le visage des drapeaux ou des symboles, on l'a vu au moment du mouvement Black Lives Matter. On a vu également diffuser des hommages ou des fémages à la femme politique Alexandria Ocasio-Cortez.
Representative Yoho put his finger in my face. He called me disgusting. He called me crazy. He called me out of my mind. He called me dangerous.
D'autres tutoriels en profitent pour dénoncer le sort des Ouïghours en Chine. Et alors, petit point écologie, puisque ce sont des produits qui ont parfois aliéné les femmes, leur santé et leur peau. On n'oublie pas non plus l'environnement, puisque ce sont souvent des ingrédients issus de la pétrochimie, des matières inertes, des flacons en plastique non recyclables qui contiennent parfois des perturbateurs endocriniens, des polymères qui sont des plastiques que l'on retrouve dans les fonds de teint. Donc voilà, n'hésitez pas à privilégier des ingrédients bio de petites marques et à suivre des labels comme Slow Cosmetics. Et si on est vegan, n'oubliez pas qu'en Union européenne, les produits ne sont pas testés sur les animaux, mais c'est le cas lorsqu'il s'agit de produits finis et pas d'ingrédients qui peuvent l'être dans la chaîne de production. Donc voilà, attention. Alors on va écouter le témoignage de la youtubeuse Cindy avec un S, qui a notamment fait une vidéo de maquillage en parlant d'une relation toxique.
Je m'appelle Cindy, j'ai 25 ans, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 2 ans, donc ma chaîne porte le même prénom que moi, c'est juste Cindy. Et sur ma chaîne, je fais beaucoup de lifestyle, du voyage, et c'est moi qui parle de plein de trucs, de plein de sujets que j'ai envie de parler. C'est quand même majoritairement porté sur le développement personnel, mais ouais, c'est ce que je fais. J'ai commencé à me maquiller, je pense que c'était au collège, je dirais en quatrième, troisième. J'ai commencé par le mascara et l'eyeliner personnellement. C'était assez léger parce que j'allais quand même à l'école, mais j'ai vite compris que c'était un truc que j'allais beaucoup aimer. Je pense que j'étais dans un moment de ma vie où je me cherchais, comme toutes les jeunes filles, je cherchais un peu. Il y a toujours un espèce de moment où on essaye de grandir un peu plus vite que ce qu'on attend de nous, entre guillemets. Et c'était pleinement dans ce moment-là de l'adolescence où on essaye de plaire à tout le monde et de se plaire à soi-même aussi. Mais j'ai pas l'impression que j'ai jamais eu le sentiment de me maquiller pour les gens en tout cas. Le maquillage aujourd'hui, mon cheminement a toujours été à peu près le même. Pour moi, c'est un peu une forme d'art et c'est un peu comme la mode. Ça me permet de me conditionner pour ma journée et je vois presque ça comme de la méditation. Quand je me maquille le matin pour partir et pour commencer ma journée, que ce soit une journée YouTube, une journée voyage ou une journée peu importe en fait, c'est vraiment un moment où pendant que je me maquille, j'écoute de la musique que j'aime et je me conditionne à passer une bonne journée tout simplement avec des bonnes pensées dans ma tête et m'organiser un petit peu sur ce que j'ai à faire, tout ça. Donc pour moi, vraiment, il y a une espèce de vraie dimension de bien-être dans le maquillage. Et pas seulement parce qu'à la fin, je me sens jolie, puisque je me sens aussi jolie sans. C'est plus juste d'aimer accorder mon maquillage avec mes vêtements ou accorder mon maquillage avec mon mood. Ou... J'aime bien, ça change, c'est cool. C'est cool. Je ne réponds plus vraiment aux gens qui trouvent... surtout de par... Déjà, mon travail, c'est quelque chose que je viens d'expérimenter là pendant ce voyage, où dès que je suis présentée comme étant influenceuse ou quoi que ce soit, je passe tout de suite pour quelqu'un de très superficiel. Il suffit que je sois maquillée. En plus, il y a vraiment des gens... J'ai vu des regards changer sur moi. Je me fatigue plus vraiment. Je pense que c'est aussi dû à l'âge. Je me fatigue plus à justifier quoi que ce soit. Je sais que je me maquille pour moi. Les gens vont finir par comprendre un jour. Et j'ai vraiment... ça peut sonner peut-être un peu méchant, mais j'ai plus vraiment envie d'éduquer là-dessus. Si c'est une conversation ouverte où vraiment on me demande pourquoi j'aime autant me maquiller, là, je peux peut-être avoir envie de répondre. Mais si c'est juste, tu te maquilles parce que sans ça, tu devrais te trouver moche ou des trucs comme ça, là, je réponds plus. J'ai pas grand-chose à répondre parce qu'encore une fois, je sais très bien pourquoi je le fais. Pour moi, c'est un cliché déjà de boomer. C'est un cliché d'homme aussi, je trouve, même si j'aime pas généraliser. J'ai rarement vu des meufs me demander si je me maquillais pour moi ou pour les autres. En fait, c'est même jamais arrivé. Donc ouais, c'est un vieux cliché qui va finir par se déconstruire, j'en suis certaine. Du coup, c'est vrai que j'y porte pas plus attention que ça, très sincèrement. J'ai pas l'énergie, j'ai plus envie d'avoir ça à faire dans ma tête. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent maintenant. Ça me touche plus du tout. Comme j'exposais tout à l'heure, pour moi, le maquillage, il y a une dimension où vraiment je fais le point avec moi-même. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me filme en parlant. Sur ma chaîne, parce que ça fait vraiment, c'est un format qui fonctionne bien, le chit-chat make-up, pas seulement en termes de vues et tout, ça c'est pas vraiment ce que je recherche, mais je veux dire que quand on partait en soirée, quand on pouvait encore le faire, et qu'on se maquillait entre copines, c'est à ce moment-là qu'on discute souvent, tu vois, c'est à ce moment-là qu'on parle de nos crushs ou d'autres choses, parce qu'on ne parle pas que de ça, on peut parler de choses qu'on traverse à ce moment-là, ou juste se mettre dans l'ambiance, et c'est un moment qu'on aime bien. Souvent on est en mode, on se prépare chez toi ou chez moi, on y va à quelle heure, et du coup, c'est un peu cette dimension-là que j'essaye de recréer à travers les chit-chat make-up sur ma chaîne.
Merci pour ce témoignage. Et pour parler de notre expérience, toi, quelle est la tienne, Kaoutar ?
En fait, j'ai un souvenir assez précis, même plusieurs souvenirs en lien avec la question du maquillage. J'étais encore assez jeune et j'ai souvent assisté, comme beaucoup d'entre vous sûrement, à des mariages de cousins, de cousines. Et je sais que les mariages auxquels j'avais assisté quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, j'étais toujours très, très frappée parce que je remarquais bien à quel point la poudre qui était utilisée par les femmes de ma famille pour se maquiller étaient des poudres très blanches. Et je trouvais ça étonnant, mais étonnant aussi parce que la poudre était, on pourrait dire, tellement poudreuse et tellement blanche que lorsqu'elles l'appliquaient à gros paquets sur leur visage, il y avait une forme de nuage qui se formait autour d'elles. Enfin, il y avait du blanc un peu partout, il y avait de la poudre un peu partout. Et j'ai mis du temps à comprendre que ces femmes, que ces membres de ma famille, elles cherchaient ça pour ce moment précis de leur mariage, pour ce moment précis de leur transformation quasi sociale. C'était aussi le moment où elles allaient entrer dans leur sexualité, où elles allaient affirmer socialement avoir des relations sexuelles avec leur futur conjoint. La question de la peau blanche, était très présente. Donc ça, c'est vraiment un souvenir très marquant que j'ai par rapport à ma situation plus directement. C'est très changeant, c'est très fluctuant, mais ça dépend beaucoup du temps. Ça dépend des matins où j'ai le temps et des matins où, au contraire, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour rester devant mon miroir. Et toi, Clémentine, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport à cette question ?
Eh bien, puisque tu as déjà vu ma tête, je pense que tu vois bien que c'est un rapport ambivalent aux cosmétiques. Je saurais pas dire comment et à quel moment j'ai appris à me maquiller. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas me mettre de l'eyeliner, par exemple. Et donc, je me maquille pareil tous les jours, sauf à Noël, en gros. En plus, j'ai pas de cils parce qu'ils sont blonds. Donc, il faut absolument que je me mette du mascara pour ressembler à une personne humaine. Mais en tout cas, moi, contrairement à toi, j'ai jamais vu, par exemple, ma mère se maquillait parce que c'était pas son truc et donc j'ai pas du tout fait cet apprentissage de ses gestes à la maison comme étant quelque chose de particulièrement féminin. Par contre, je me souviens que quand j'étais plus petite, les parents de certaines de mes amies leur interdisaient de se maquiller et moi ça me paraissait être un intérêt assez futile et assez superficiel à l'époque. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'ai encore de l'acné à mon âge. Du coup, j'en profite pour recommander un compte Instagram qui s'appelle Skin and Out, qui donne des conseils beauté pour ces peaux-là qui sont plutôt atopiques. Et moi, j'aime beaucoup écouter un podcast qui s'appelle Forever 35, qui parle justement de beauté, qui est un sujet auquel je ne connais pas grand-chose et donc ça me fascine de les entendre. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas ne pas poser la question du male gaze, la question de la femme qui se couche aux côtés d'un homme ou d'une femme et qui se réveille en ayant un autre visage au naturel. D'ailleurs, moi, un de mes ex me disait que j'étais en 3D et que le matin, j'étais en 2D. Voilà, c'est pas très sympa.
Charmant.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, next.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop.
Culture.
Alors, pour parler de la question des cosmétiques dans la pop culture, moi, je me souviens que dans la série The Office, le personnage de Phyllis se maquillait pour réaliser une photo d'entreprise et qu'un autre personnage masculin lui disait « Mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage ? On dirait un clown. » Voilà, je pense que ça donne un peu un aperçu de ces rapports-là.
Si vous êtes comme moi, fan des teen movies, vous n'avez pas pu échapper à ces scènes où les filles vont du lycée ou alors à l'université, se rejoignent aux toilettes pour se maquiller. Et c'est précisément en faisant ce geste-là de se remaquiller qu'elles se font par ailleurs des confidences, qu'elles manigancent des plans contre un garçon en particulier ou contre une autre fille en particulier.
Regina. Hey. Wow. You look really beautiful.
Quelque chose qui est inscrit dans la routine quotidienne de chaque jeune fille et qui permet de créer une forme de lien, qui permet de venir consolider un groupe déjà existant.
Oui, et d'ailleurs, dans le pire des cas, on décide de maquiller une héroïne et de lui enlever ses lunettes. Et
tout
elle se
fait.
Transforme ainsi en princesse, comme dans le film Elle est trop bien. Donc ça, c'est un peu un classique du teen movie.
Lui, c'est Zach, le prince charmant du lycée. Il sortait avec la reine de la promo 98. Mais elle l'a planté. Alors pour redorer son blason, il a accepté un pari foireux.
Je choisis la fille et tu as 6 semaines pour la transformer en reine de beauté.
Le maquillage, c'est aussi un pilier des émissions de makeover ou de ravalement de façade, hein, donc ceux de Christina Cordula, mais aussi de Queer Eye, par exemple, avec le fameux moment de la comparaison avant-après, où l'on voit l'amélioration physique de la personne. Moi, j'ai aussi regardé une télé-réalité qui s'appelle Glow Up, qui est un concours de maquilleurs et de maquilleuses qui se passe en Angleterre avec tout un tas d'épreuves, comme le genre le veut, qui se passe dans la mode et dans le cinéma, et c'est une émission qui valorise vraiment cette forme d'artisanat que peut être le maquillage à son meilleur, qui est parfois une forme d'art et même d'illusion. Je vous la recommande.
Pour les hommes queer, c'est aussi très lié à la question du costume, à la question de la performance scénique. On peut penser à des personnes comme David Bowie, Freddie Mercury, mais aussi Boy George ou encore The Cure. Ça correspond aussi beaucoup à la culture des performances drag, comme notamment dans l'émission de RuPaul.
People in my family, my mother, my father, basically ignored it. You know, it wasn't something that they knew how to deal with. You know, the kids in the neighborhood would say, oh, you're a sissy. I'm like, oh, okay, you know. But because I am a sweetheart. No one ever really came for me in a really negative way.
RuPaul Drag Race, où le maquillage permet d'inventer un personnage féminin, et cela rappelle aussi bien sûr les techniques de maîtrise pour les personnes compétentes. À tel point que le maquillage drag s'est fortement popularisé ces dernières années et bien au-delà de cette scène, notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, et le maquillage peut aussi pointer du doigt une déficience, puisque c'est un moment qui est parfois infamant dans la vie des célébrités. D'ailleurs, les stars qui sont photographiées sans maquillage suscitent souvent l'opprobre public. Ça a été le cas de Cardi B il y a peu, qui a fait exprès de faire une intervention sans maquillage. Voilà. À l'inverse, il y a aussi des looks qui sont assez iconiques parmi les célébrités. On peut penser au trait d'eyeliner chez Amy Winehouse, au vermillon de la bouche de Marilyn Monroe.
Et un phénomène extrêmement récent qui nous rappelle encore une fois, même si on l'a répété à plusieurs reprises, que la question du maquillage, c'est aussi une question qui est pleinement ancrée dans les univers capitalistes, puisqu'on peut rappeler que de nombreuses personnalités ont décidé de lancer leur propre marque de maquillage, ce qui contribue à entériner leur statut de célébrité qui incarne des marques quasi vivantes. Le cas d'école qui est très réussi, c'est notamment celui de Rihanna et de Fenty Beauty qui a été lancé en 2017 et qui a généré lors des 15 premiers mois plus de 570 millions de dollars de bénéfices. On est entre quelque chose d'inclusif pour les carnations foncées, avec un fond de teint qui a été notamment décliné en plus de 40 puis en 50 teinte, on peut simplement rappeler qu'elle a dû récemment fermer sa marque de prêt-à-porter, Fenty, qui au contraire, elle n'a pas du tout marché.
Oui, alors évidemment, elle n'est pas la seule à gérer sa petite entreprise de cosmétiques. Il y a, on parlait tout à l'heure d'Alicia Keys qui a lancé Keys Soul Care avec Elf Cosmetics. Il y a Selena Gomez avec Rare Beauty, J.Lo Beauty pour Jennifer Lopez, Kim Kardashian avec KKW Skin, etc., etc. On ne va pas toutes les citer. Il faut savoir que la rappeuse Megan Thee Stallion, de son côté, a signé un deal d'ambassadrice avec la marque Revlon et qu'elle-même a réalisé son propre maquillage sur le clip de WAP. Néanmoins, hein, outre la qualité assez variable de ses produits, il faut savoir que c'est tout de même un moyen de monétiser sa carrière après qu'elle soit terminée pour des personnes comme Paris Hilton, Dolly Parton ou encore Brigitte Bardot. Et la comédienne Millie Bobby Brown, qui a elle aussi lancé sa marque, la comédienne de Stranger Things, s'est fait prendre la main dans le sac, malheureusement, puisqu'elle a réalisé une vidéo sur Instagram parlant de sa routine beauté du soir, mais elle n'utilisait pas ses propres produits. Voilà, donc faites bien les choses quand même et ne nous prenez pas pour des quiches.
Soyez cohérents.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ?
Alors, est-ce que tu ne nous recommanderais pas un livre cette semaine ?
Oui, alors un livre sur un tout autre sujet, un sujet grave et qu'il faut néanmoins aborder et discuter, c'est la question des crimes racistes. Et je recommande à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de se précipiter sur l'ouvrage de la sociologue Rachida Brahim, La race tue deux fois, qui revient sur l'histoire des crimes racistes qui ont été perpétrés à Marseille entre les années 1970 et les années 2000. C'est une question évidemment politique, mais qui me semble à l'heure actuelle des plus centrales et des plus importantes. Ouvrage que vous retrouverez aux éditions Sileps. Et toi, Clémentine, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Alors moi, c'est L'étrange vallée de Anna Wiener aux éditions du Globe. Je trouve que la désillusion professionnelle se prête assez bien à ce genre d'introspection caustique. Ici, l'autrice, qui est une jeune femme plutôt littéraire, qui vient d'un secteur sinistré, donc le milieu de l'édition à New York, atterrit à contre-cœur dans une start-up et découvre un San Francisco grignoté par le monde de la tech et ses petits mâles blancs misogynes. Donc voilà, c'est un récit sur la Silicon Valley, vu de l'intérieur, qui est assez déprimant, sans surprise, avec beaucoup de novlangue de la Startup Nation. Voilà, je vous le recommande.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Donc cette semaine, dans les courriers des auditrices et des auditeurs, on a retrouvé notamment un message de Cécilia, Et Cécilia qui nous dit qu'elle écoute les podcasts Quoi de Meuf. On en est très heureuse. Merci beaucoup, Cécilia. Mais plus sérieusement, elle nous parle aussi des mamans solo qui, selon elle, sont invisibilisées. Elle nous dit notamment « Savez-vous qu'en faisant une recherche maman solo féministe, vous ne trouvez aucun résultat avec ces mots réunis ?» Soit que les mamans solo ne sont pas féministes, soit qu'il n'y a pas de temps pour l'engagement. Et pire encore, peut-être que les féministes engagées ne se sentent pas concernées par ce sujet. Bref, je suis maman solo, nous dit Cécilia, est féministe et en colère, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que l'on peut en parler ?
Bah effectivement, et surtout dans le contexte actuel de la PMA et du vote qui a lieu à l'Assemblée et au Sénat, il est vrai que les mères célibataires sont une force politique moins bien identifiée et moins visible, par exemple, que les couples lesbiens. On le voit en ce moment, notamment puisque cette loi, d'ailleurs, va peut-être laisser sur le carreau les mères célibataires. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'associations qui les représentent, notamment Mam en solo, et un certain nombre de groupes Facebook qu'on peut rejoindre, comme Concevoir en solo, PMA pour toutes, et qu'il faut aussi différencier la maternité solo choisie et la maternité solo subie. Mais néanmoins, voilà, on peut se mobiliser autour de ces causes. Les mères célibataires féministes sont bien présentes sur les réseaux et elles sont également aux manifestations, il ne faut pas hésiter à y aller. Moi, c'est un sujet auquel je me suis intéressée pour le magazine Cosette du mois de mars. Vous pourrez le lire en couverture du magazine. J'espère qu'on a fait le tour de la question du maquillage. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quoidemeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler et relire en détail le Scum Manifesto de Valérie Solanas. Merci, salut Kaouta.
À bientôt.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo.
Avec Kaouta Archi.
Mixage Laurie Galigani. Prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation, montage et coordination Ashley Tola.